Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
Première session du séminaire se poursuit avec l'intervention de Perrine Poupin sur les milieux urbains et naturels ukrainiens dans la guerre et sous occupation russe.
Merci de me donner la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'ai été recrutée en octobre 2021 donc, au CNRS, section 39, à l'équipe grenobloise de Cresson. J'ai été recrutée en fait, sur un programme de recherche qui concernait des mobilisations environnementales en lien à des projets d'aménagement dans le grand nord de la Russie. Et disons que mes terrains se partagent entre la Russie et l'Ukraine depuis mon master, donc ça fait pas mal d'années. Et mon dernier terrain, en fait, était pas en Ukraine, mais en Russie, justement, en été 2019. Donc avant la survenue de la guerre, il y a eu aussi la pandémie qui a bloqué l'accès au terrain en Russie. Donc c'était, ça commence à dater pour moi, pour ceux qui aiment, disons, des enquêtes de terrain approfondies et au long cours, c'est un peu difficile. Et du coup, la guerre en Ukraine, la guerre a commencé au printemps 2014, mais la nouvelle séquence, on peut dire, de la guerre, qui est devenue une guerre totale sur le territoire de l'Ukraine, en fin février, en fait, a bouleversé mes plans, on peut dire, de recherche. Et en plus des bouleversements humains et scientifiques, de savoir en fait ses interlocuteurs, ses amis, des personnes très proches, vraiment on peut dire aux premières loges de la guerre. Et du coup, comme j'ai toujours l'habitude, j'ai toujours des terrains un peu compliqués et j'ai une méthode de recherche justement qui est aussi faite pour faire face en fait à des mobilisations quand elles ont cours, donc de pouvoir en fait capter, enquêter au moment où se passent les choses. Et donc voilà, la guerre, c'est aussi, ça s'est soldé par une fermeture des frontières avec la Russie et aussi avec l'Ukraine. Et donc j'ai un peu, disons, pour des besoins scientifiques, politiques et même existentiels, je vous propose en fait une réflexion sur ce qui se passe en Ukraine. Et puisque justement la Russie considère l'Ukraine comme sa périphérie, puisqu'elle veut l'intégrer à son territoire, on pourrait dire que ça, c'est une prolongation de mon programme de recherche sur les mobilisations environnementales sur les périphéries russes, puisque l'Ukraine est considérée comme une périphérie russe. Et donc, en fait, moi, j'aimerais vous parler de la guerre actuellement en Ukraine, même si je n'y ai pas encore fait de terrain, puisque je vous ai dit que l'accès au pays est impossible. Donc c'est un peu difficile, je ne me sens pas très légitime à vous présenter des données par rapport à comment on enquête sur l'environnement sensible et les ambiances en contexte de guerre, sachant que toutes mes données en fait, sont issues de ce que je peux capter sur les réseaux sociaux, mais bien sûr aussi de tous mes interlocuteurs, des ingénieurs sons, des architectes, des sociologues, des artistes ukrainiens qui aussi continue à documenter les événements. Donc voilà, c'est pas ma propre enquête, mais à l'ère d'Internet et grâce en fait à des relations nourries depuis des années, j'ai du matériel. Mais bon, c'est un peu délicat de dire que c'est un véritable terrain. Et donc il y a énormément de matériaux en ligne sur Internet, sur les réseaux sociaux. En Ukraine, c'est plutôt Facebook. Et en Russie, voilà, j'ai une lecture parallèle, on peut dire, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens. En Russie, c'est plutôt Vkontakte, qui est un peu l'équivalent Facebook made in Russia, on peut dire. Et donc, sur Internet, on peut trouver énormément de choses, et même de l'ordre du matériau sensible, sur justement la destruction des villes, l'étendue des dommages, mais aussi les conditions de vie, les expériences sensibles des personnes et des témoignages directs, on peut dire, de la catastrophe, des récits de choc. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu un nouveau programme de recherche qu'on pourrait faire sur l'Ukraine et que je fais en parallèle de mon programme sur la Russie, parce que j'ai énormément de matériaux que je traite encore depuis l'été 2019, donc de pouvoir en faire les deux. Donc en Ukraine, en fait, j'ai déjà fait des terrains. Ma thèse était sur des mobilisations politiques à Moscou. Mais ensuite, comme je ne voulais pas revenir en France pour écrire cette thèse, j'ai vécu 3 ans à Moscou. J'ai vécu 3 ans à Kiev et je me suis déplacée beaucoup dans le territoire. Et j'ai vécu juste avant, en fait, la révolution de Maïdan en 2013-2014. Et donc j'avais fait des terrains sur, justement plutôt sur les mobilisations urbaines à Kiev, et notamment sur la place centrale de Kiev, donc au centre de la capitale. Et j'avais fait aussi un autre terrain sur les violences notamment faites aux femmes dans le conflit du Donbass, c'est-à-dire cette guerre qui a commencé en 2014 à l'est du pays. Et j'avais suivi en fait des femmes qui avaient été prises en otage par les forces russes et qui avaient pu être libérées, et un peu de voir leur itinéraire à la fois judiciaire, médical, mais aussi géographique, en fait. Qu'est-ce qu'être une habitante du Donbass et d'être exilée dans un territoire ukrainien qui les acceptait plus ou moins malgré leur traumatisme. Donc ça, c'était... j'avais fait un article qui est, je pense, dans les événements est intéressant à voir. Et donc ça, c'est un peu d'où je pars. Je vous fais quelques petits rappels. Je pense que vous les avez tous en tête. Donc on a donc un pays qui, donc après la révolution, juste après la révolution de Maïdan, la Russie a annexé la Crimée, donc cette péninsule au sud du territoire, en février-mars 2014. Et ensuite, on a la guerre du Donbass, donc depuis 2014, dans les provinces est du pays. Et moi, ce que je propose, en fait, donc voilà, j'ai juste rappelé quelques l'est du pays, donc juste à la frontière avec la Russie. Et ce que moi, je propose de faire, donc, dans l'actualité qui commence en février 2022, c'est d'étudier justement la destruction de ces paysages plutôt urbains. La destruction donc des territorialités, des villes, des quartiers, des habitats, du logement, mais aussi du patrimoine historique. Enfin, voilà tout ce qu'on peut étudier. Qu'est-ce qui fait l'urbain ? Il y a une notion qui est assez importante depuis pas mal d'années et qui a aussi été utilisée pour le Liban, urbicide. Donc qu'est-ce qu'on tue de l'urbain quand un pays est en guerre ? Donc il y a plusieurs volets. Il y a donc ces villes qui sont dans la guerre, des villes qui sont occupées par la Russie. Donc on a les régions de l'est du Donbass qui sont elles occupées depuis 2014, mais on a aussi beaucoup de villes dans le sud de l'Ukraine et dans l'est de l'Ukraine. En fait, un peu à mesure que le front se déplace, des forces russes en fait qui viennent occuper des territoires des villes. Et je vais vous dire après dans les détails en quoi ça consiste. Et donc pour étudier, les villes en guerre, les villes sous occupation, les villes qui sont libérées après de cette occupation, et aussi un dernier moment que je vais vous présenter sur l'effet de la guerre sur l'environnement. Donc là, pas forcément des espaces habités, mais des espaces naturels. Et donc pour étudier ça, en fait, voilà, je vous ai dit en introduction que j'ai beaucoup d'interlocuteurs, d'amis, de connaissances avec qui je collabore depuis au moins 2010. Et parmi ceux-là, il y a André Nijewski, qui est un ingénieur son, que j'ai rencontré en fait parce que je m'intéresse beaucoup. Moi-même, je filme et je fais pas des documentaires, mais je fais des séquences filmées que j'utilise beaucoup dans mes travaux. Et depuis la révolution de Maïdan, depuis 2013-2014, j'ai suivi un collectif qui s'appelle Babylon 13. Et donc, c'est des documentaristes qui, en fait, ont contribué à la révolution et à la suite en faisant beaucoup de films de 3 minutes jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures, sur des séquences, qu'est-ce que la révolution au cœur de Kiev. Et ensuite, ils ont beaucoup filmé aussi la guerre du Donbass, donc ils sont allés dans différentes villes. Et il y a différentes histoires qui sont racontées. Et donc, André, il est ingénieur son pour le cinéma plutôt documentaire. Et donc, dans cette guerre, donc, qui commence en février 2022, il continue à documenter. Et donc, c'est le premier son que je vais vous donner à entendre. C'est ce son, en fait, c'est un long titre où en fait, c'est Kiev pendant la guerre. Donc, ça a été pris le 1er avril 2022. Donc, lui, il habite et travaille à Kiev. Et donc, là, il prévient, en fait, il l'a posté sur Instagram. Et c'est écrit en anglais, donc c'est plutôt à l'intention, en fait, de ses collaborateurs, collègues, ingénieurs son. Certains sont français. Et donc, voilà, une manière de transmettre ce qui se passe en ce moment. Et donc, je vais vous le faire écouter. Là. Donc, Andriy commente cette bande-son, dit ben, « Kiev pendant la guerre ». Donc, non, les gars, ce n'est pas du sound design ou des effets sonores. J'ai juste mis un micro dans ma cour et enregistré cette atmosphère. C'est un jour ordinaire dans notre belle ville et comme dans d'autres villes d'Ukraine, continue l'opposition héroïque du peuple ukrainien à l'invasion militaire russe. Dans l'agonie de l'impuissance, les occupants détruisent les civils et les enfants avec des frappes aériennes, détruisant les jardins d'enfants, les écoles, les églises et toutes les infrastructures, essayant de nous persuader de nous rendre. Donc ça, c'est le commentaire d'Andriy. Il y a, en fait, voilà, ça, c'est une prise, on peut dire, un peu brute d'une atmosphère à Kiev qui n'était pas au cœur des bombardements, mais on en entendait beaucoup. Et il y a aussi d'autres propositions, en fait, on peut dire plus, montées. Par exemple, là, c'est un hymne de la Russie, fait par un producteur de musique. Voilà, une proposition, ce que serait un hymne de la Russie à partir, justement, d'explosion. Oui, j'ai la concurrence de l'avion. Ah non, c'est que j'ai pas mis le truc. Okay.
Может, еще один удар по Танезе?
Il y a aussi beaucoup de témoignages en fait sur donc les réseaux sociaux. Tous ces témoignages, enfin, ceux que je vous donne à lire et à entendre, en fait, c'est des gens que je connais directement. En fait, donc voilà, il y a un tri, on peut dire, ou en tout cas une vérification de l'information, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake, enfin pas forcément de fake news sur ces contextes de guerre, mais on pourrait se demander, mais qui parle ? Donc ces personnes, c'est des interlocuteurs avec qui je discute, collabore depuis des années. Et par exemple, Maria, qui est soldate et qui a fait des études d'histoire avant, en fait, voilà, il parle de ces villes où des centaines de milliers de personnes, enfin, des villes où vivent des centaines de milliers de personnes et qui sont rayées de la surface de la Terre. Et donc, il y a beaucoup de thématisation, justement, de ces villes rasées, on peut dire. Et donc, des personnes qui sont, ben voilà, meurent, sont brûlées, sont violées, enfin, toutes les violences de guerre qu'on a vues sur d'autres pays et qui se répètent en Ukraine. Et il y a cette idée aussi que si on étudie, en fait, les expériences de la violence, donc de la guerre, il faut aussi remettre en contexte par rapport aux expériences précédentes de la violence des personnes. C'est-à-dire qu'en Ukraine, on est à peu près, enfin, on pourrait faire une comparaison avec la France. C'est des pays, enfin, c'est un pays où, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de conflit sur l'Ukraine. Il y a eu des conflits pendant la période soviétique, c'est-à-dire qu'il y a des Ukrainiens qui sont allés se battre, en fait, en Afghanistan, mais sur le territoire même, en fait, il n'y avait pas de conflit. Il y a d'autres témoignages aussi sur des gens qui vivent à l'étranger, des Ukrainiens qui vivent à l'étranger. Et voilà, une étudiante qui vient du Donbass. Et donc, elle, en fait, c'est toutes les villes et tous les villages de son enfance qui ont disparu, les villes où elle habitait, où elle allait passer ses vacances, où ses grands-parents habitaient. Donc voilà, en fait, on a tout un espace vécu qui disparaît. Je vais avancer un peu plus vite. Donc voilà, il y a différents sons, des sons de, par exemple, d'Irpen, de Boutcha, de toutes ces villes qui, dans la région de Kiev, qui ont constitué en fait un bouclier, qui ont protégé la capitale. Parce qu'on parle beaucoup d'Irpen, de Boutcha, on se dit mais pourquoi ? Enfin, c'est des villes, des villages. Mais en fait, c'était voilà, c'est des villes où l'armée ukrainienne a protégé en fait. La capitale qui était visée par l'armée russe. Et donc là, je vous passerai. Voilà, j'utilise aussi des vidéos. Ensuite, c'est l'idée de comparer des villes entre elles, parce que voilà, c'est des villes avec des histoires différentes. Donc de voir à peu près ce qui se passe dans différentes villes, par exemple à Mariupol, dans le sud-est du pays, qui est assiégée depuis mars. L'idée ensuite, en fait, voilà, c'est de vraiment documenter précisément la destruction des espaces habités, donc de quoi on parle, des infrastructures, des musées détruits, des vols dans les musées par l'armée russe, la destruction des parcs, tous les aspects qui sont concernés par la guerre. C'est comment voilà, la vie civile se réorganise en temps de guerre. Donc, une fois que tout est détruit, qu'on n'a plus d'eau, d'électricité, ben voilà, on fait la cuisine, par exemple, sur des feux de camp dans les cours d'immeubles. Donc, décrire dans assez finement ces expériences-là. Et donc, le gros, peut-être ce qui est un peu assez innovant et rare dans les études sur les villes en guerre, parce que sur les destructions, on a quand même beaucoup de choses, mais il y a quelque chose d'assez rare, je trouve, enfin, en tout cas, dans les techniques d'occupation russe, c'est vraiment, voilà, les villes, une fois qu'elles sont occupées par les Russes, c'est pas vu comme quelque chose de temporaire, c'est vu comme quelque chose sur la longue durée. L'idée, en fait, c'est d'intégrer ces régions à la Russie. Et c'est dit officiellement, c'est pas moi qui commente. Et donc il y a tout un tas de techniques que je documente sur Internet. Donc il s'agit de kidnapper, de tuer des équipes administratives des villes ou des régions, d'organiser des référendums, de kidnapper aussi des civils. Et ça concerne aussi l'urbain, voilà, de faire des couvre-feux, ça on peut le décider, mais aussi par exemple d'organiser des défilés en la mémoire de fêtes soviétiques, de détruire des monuments, d'installer des drapeaux russes, de mettre des panneaux de publicité sociale en faveur de la Russie, et de mettre en place des infrastructures des médias et de la presse russe dans l'espace urbain ukrainien. Et de changer les infrastructures d'Internet aussi, c'est intéressant, parce que, par exemple, quand il y a eu l'occupation de la Crimée, il a fallu quand même 3 mois à la Russie pour changer les infrastructures d'Internet de la péninsule. Mais on peut dire que l'exemple de la Crimée a été intégré. Et là, en quelques jours, en fait, vous voyez la ligne de front se déplacer et vous avez donc l'occupation d'une ville. Et en quelques jours, en fait, les fournisseurs d'accès, en fait, sont russes. On transforme, en fait, Internet très rapidement. On instaure une nouvelle monnaie, donc le rouble remplace, ou en tout cas en parallèle de la grivnia. Et donc, voilà, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais c'est de vraiment rentrer dans le détail de ces techniques d'occupation. Et aussi des résistances, je n'ai pas le temps d'en parler, mais des populations qui continuent à faire des manifestations, même sous occupation russe, et par plein de signes de montrer son mécontentement et de continuer, on peut dire, une lutte à l'intérieur de ça. J'ai plus trop le temps. Non, 2 minutes ou 5 minutes? Non, plus rien. Bon, je vais aller très vite pour finir. Donc là, c'était en fait juste une vidéo sur, justement, on utilise un fourgon de police pour diffuser la télévision russe dans l'espace public. Donc voilà, au cœur du... Et en disant, bien sûr, que tout va bien et que l'ordre va être rétabli. Rapidement, en fait, voilà, c'est documenter aussi ce qui se passe dans les villes libérées, c'est-à-dire la documentation des massacres et de voir comment ces enquêtes se font, comment se fait aussi la reconstruction. Il y a vraiment un énorme dynamisme de la société ukrainienne de reconstruire très vite les villes. Et le dernier moment, c'est aussi de documenter la destruction de la nature, des espaces naturels, des forêts, des arbres remarquables, enfin de différents aspects de la guerre. Et aussi, voilà, qu'est-ce qu'une centrale nucléaire comme Tchernobyl, quand elle a été plusieurs semaines sous occupation russe, donc qu'est-ce que ça dit ? Il y a une autre centrale nucléaire de Zaporojye qui est dans le sud de l'Ukraine, qui est en ce moment occupée par les forces russes. Et donc, ces dernières années, il y a un champ de recherche, en fait, qui s'appelle Toxic Heritage, Toxic Landscapes, enfin, tout un pan de l'anthropologie sur mesurer les effets de la guerre, par exemple de la Première Guerre mondiale dans le nord de la France, sur l'environnement. Et donc voilà, toutes ces armes ont des effets, et des effets à long terme, parce qu'on a des problèmes de santé encore très forts dans le nord de la France liés à la Première Guerre mondiale. Et donc c'est de documenter ça aussi sur... les sols contaminés, sur les effets des armes chimiques et autres, et aussi de réfléchir peut-être, même si on est encore dans la guerre, sur la réhabilitation de ces espaces. Donc je vais finir là. C'était une petite introduction à la guerre en Ukraine, et je vous remercie de m'avoir donné ce temps pour parler de ce conflit.
Merci Perrine, on va prendre 10 minutes pour des questions, remarques.
Rachel Thomas, chercheur à AU au Cresson. Perrine, merci beaucoup pour cette intervention et l'ensemble des éléments que tu peux nous donner à comprendre. Moi, j'ai une question qui dépasse peut-être un petit peu ce que tu nous as présenté, qui est liée à comment tu fabriques, toi, les films, puisque tu nous as dit que tu travaillais à partir de la vidéo et que tu fabriquais des films. En fait, je me posais la question de Comment le film est une forme d'écriture pour toi, d'une forme de critique, et si c'est le cas, de quelle forme de critique? Et la question qui est articulée à celle-ci, c'est quel type d'attention tu portes à l'esthétique du film, si tu en portes une.
Merci. Effectivement, je fais des films et c'est toujours adossé à une ethnographie. Donc là, sur la guerre en Ukraine, je ne produis rien. Et c'est toujours adossé, en fait, moi, dans la fabrication, s'il y a une éthique, en fait, dans la fabrication, c'est souvent des séquences, en fait, de 7, 8, 11 minutes par rapport à des situations. Et c'est adossé aussi à une lecture un peu goffmanienne des situations, c'est-à-dire d'avoir une attention sur les espaces, les atmosphères, la présentation de soi des personnes, enfin tous les jeux d'une micro-situation. Et ce à quoi je tiens, en fait, c'est à partir de la posture, on peut dire, en fait, de la pratique filmique, c'est de pouvoir lire aussi tout ce qui se produit en termes de film dans une situation. Donc, c'est-à-dire que ce soit un habitant, un militant, un policier, un journaliste, tout type de personne. Et je pense que, justement, quand on est dans la production filmique, on est capable de voir, en fait, la production critique des personnes par le film. C'est-à-dire que c'est une manière d'écrire de manière alternative pour la science, mais c'est aussi une manière de rentrer, en fait, dans la fabrique d'un discours par les images des personnes. Mais c'est vrai que... Enfin, voilà, en fait, je fais aussi beaucoup de photos. C'est pas forcément de la vidéo, mais... C'est toujours, en fait, accolé à une description très fine de situation.
Je me demandais, juste pour poursuivre, si, par exemple, tu t'étais interrogé sur le poids que pouvait prendre le son sans l'image, l'image avec du son tout le temps ou du son que de temps en temps. Enfin, on sent quand même la répercussion que peuvent avoir parfois juste le son sans l'image, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu... Que tu imaginerais travailler ou que tu as déjà travaillé ?
Oui, bien sûr. Ben oui, parce que justement, quand on fait des images, normalement, on a une grande attention au son. Enfin, c'est le minimum, je pense. Et du coup, on expérimente, ne serait-ce que pour les besoins du montage, l'image sans le son sans l'image. Et donc, bien sûr. Ouais. Et puis, on peut faire aussi des écoutes réactivées, des entretiens à base d'images, de sons, l'un sans l'autre. Et c'est vrai que... même une image sans le son, on a une plus grande attention, en fait, aux gestes. Enfin bref, on peut multiplier les, les expérimentations, donc bien sûr.
Merci Périne. Amélie Nicolas, chercheure au Créneau. Je me pose une question de la toute première partie de cette présentation sur la posture d'enquête et sur... peut-être est-ce classique, mais sur les frontières ou comment sont négociées les frontières avec le journalisme ou journalisme d'investigation, sachant que la production, le rapport aux sources n'est pas le même dans le secret des sources et dans la manière dont ton ethnographie les dévoile, et peut-être dans des transactions qui auraient pu arriver ou t'arriver dans le temps de l'enquête et voilà, dans le partage ou la défiance ou je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, sachant que il y a une sélection et des rapports à la commande qui sont très distincts par rapport au monde de la recherche. Mmh. Voilà.
Bah, peut-être la différence avec le journaliste, c'est qu'on, dans la recherche, on a le luxe d'avoir du temps. Et c'est vrai que ces enquêtes, elles sont nourries par toutes les collaborations qu'on a depuis des années. Et donc, c'est des enquêtes vraiment au long cours. Et aussi, on a cette particularité où ce que je mets en place dans tous les terrains que je fais, c'est d'avoir une période de découverte, une période en fait où on est dans des situations et en fait, on vient pas justement avec ces valises. Je cherche des rapports de classe, je cherche des rapports de genre, je cherche des gros titres, je cherche des explosions. Mais on est là, en fait, on voit un peu ce qui est important aussi pour les personnes, des thématiques qui émergent. Et d'ailleurs, pour cette guerre depuis février. Voilà, je suis au quotidien tout ce qui se passe pendant la guerre sur les réseaux sociaux, et on est capable aussi de suivre une certaine vie des images, une certaine vie des différentes dynamiques aussi. Qu'est-ce qui est important pour différentes personnes en Ukraine. Et donc on a le temps, en fait, voilà, peut-être que la grosse différence, on a le temps, en fait, d'explorer, de voir émerger, en fait, des thèmes au lieu d'imposer des thèmes. Et c'est vrai que, enfin, on voit la dynamique journalistique est souvent assez redondante. Et on a quelques semaines comme ça très intenses où on a tous, enfin, je pense que vous avez été tous consommateurs justement d'images, d'informations sur la guerre. Mais au bout d'un moment, on a l'impression que ça ressemble à d'autres guerres, enfin, des expériences qu'on a vécues pour la Syrie. Parce que justement aussi, une partie du problème, c'est que le traitement de ces conflits est souvent justement, voilà, les explosions, les cadavres, sans vraiment attention aux personnes derrière ces cadavres. Et en recherche, on est plus justement à voir, ne serait-ce que traiter le sujet de la ville, traiter aussi les conflits et les traumatismes, mais dans un temps plus long aussi, dans l'histoire des personnes, l'histoire des villes, l'histoire. Donc de prendre de la profondeur, de l'épaisseur sur des situations qui, du premier abord, pourraient se ressembler entre différentes villes. Et du coup, on pourrait collaborer avec différentes situations, mais pas de manière générale géopolitique, dans les choses fines, dans justement l'investissement par différents groupes politiques, religieux de l'espace urbain, comment on vit une guerre et l'après-guerre, mais dans des petites choses, quoi. Donc ce serait plus un traitement, en fait, du chercheur par rapport à une actualité brûlante mais redondante.
Une dernière question.
Rainer. Oui, Rainer Kazik, chercheur à Ukraison. Ouais, c'était pas facile de trouver ça. Ma question va plutôt dans le sens de comment tu vois, comment tu sens l'importance de la notion de la notion ambiance pour comprendre une guerre. Parce que je crois qu'on a très peu, nous, travaillé ici dans notre groupe de recherche sur ça. Et est-ce que c'est une notion approbate, parce qu'il y a des choses beaucoup plus cruelles, beaucoup plus violentes qu'une ambiance qui se passe? Et quels sont les moyens, et peut-être aussi pour aborder une guerre à travers la notion d'ambiance? Et peut-être deuxième partie de la question, là, je crois... Ce qui est intéressant pour la notion d'ambiance, peut-être pas seulement dire par la notion d'ambiance, sinon aussi de qualifier, il y a une pluralité des ambiances, il y a des intensités de l'ambiance, etc. Est-ce que tu peux... Peut-être c'est déjà une partie de la réponse que moi je donnerais, peut-être l'ambiance donne des petites nuances à ce que pourrait être une guerre ou comment peut être ressentie une guerre, mais est-ce que c'est possible de les qualifier? Est-ce que tu vois déjà des routes ou des pistes pour une analyse peut-être fine et précise et dans le cadre de cette approche d'une guerre?
Ouais. Ben, là aujourd'hui c'était un peu le menu de ça, c'est-à-dire que voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais l'idée justement c'est de collecter, soit d'aller en Ukraine quand ce sera possible, mais en tout cas de collecter des matériaux sonores et visuels pour pouvoir accéder vraiment aux expériences sensibles. Et pour moi, l'ambiance, c'est un des aspects, en fait, des situations, quoi, de l'expérience sensible des choses. Je ne l'essentialise pas forcément en tant que tel, mais c'est... Enfin, voilà, si on est d'accord sur l'approche sensible de cette situation et d'aller dans la qualification et de donner à voir justement la pluralité des ambiances, de pouvoir comparer des villes, des quartiers, justement, en fait, de voir... au cours de la guerre et au cours des occupations, en fait, on a justement une histoire, enfin, des villes qui se transforment, des quartiers qui se transforment, des transports qui fonctionnent pas ou pas, bien ou pas, et voilà, de pouvoir des ambiances, par des analyses précises, d'expériences sensibles, de parler de cette guerre, de parler des villes en guerre de manière très fine, donc d'aller dans le plus fin. Mais c'est vrai que bon, par rapport au matériel que j'ai en ce moment, c'est un menu.
Merci Perrine. On vous propose de prendre 10 minutes de pause et de se retrouver
Ah, je ne vous ai pas parlé de mon objet. Ouais. Bah, l'objet, en fait, c'est, je pense que c'est bah, cette bande-son de André Nijewski. Et bah, voilà, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est très fort en fait, que des ingénieurs son aussi puissent témoigner. Il y a plein de manières de s'engager dans une guerre, au front ou dans des, enfin, de manière différente, et que lui puisse continuer avec ses compétences en fait, documenter de manière très sensible. En ce moment, il est à Kharkiv. Enfin, il n'est pas juste dans sa cour d'immeuble à Kiev. Il est aussi dans des endroits très chauds, enfin, très, très difficiles. Et donc, c'est, enfin, pour moi, ça, c'est très important de vous l'avoir présenté ici.
Merci.